Voix nue. Cette semaine, Antoine Beauchamp rencontre Jean-Pierre Luminet. Ce soir, grandir entre les étoiles.
Bonsoir Jean-Pierre Luminet.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous accueillir tout au long de cette semaine dans votre bureau, laboratoire d'astrophysique de Marseille. Pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, je rappelle que vous êtes astrophysicien, directeur de recherche CNRS, membre du laboratoire d'astrophysique de Marseille et de l'Observatoire de Paris, spécialiste internationalement reconnu des trous noirs, de la forme de l'univers et de son évolution. On est dans votre bureau, on est entouré par une multitude de livres, plus de livres scientifiques que de livres littéraires, c'est normal, c'est ici que vous travaillez. Je suis ravi de m'entretenir en tout cas avec vous alors que la nuit tombe, puisque la nuit, c'est votre partenaire de jeu, et depuis plus de 40 ans, elle est au cœur de vos recherches. Vous l'observez un peu, mais surtout vous la mettez à l'épreuve de vos théories physiques, et vous essayez de comprendre de quelle chair elle est faite. Vous faites partie des tout premiers scientifiques français à vous être penchés sur les trous noirs. Vous êtes même le tout premier à avoir imaginé à quoi pourraient ressembler les environs de ces astres tellement denses que rien, même pas la lumière, n'en ressort. À l'inverse de ces ogres stellaires, vous ne gardez pas la lumière pour vous et vous avez fait du partage des connaissances auprès du grand public l'un des moteurs de votre parcours scientifique. Du reste, vous ne vous êtes pas arrêté à cet horizon des trous noirs et vous avez développé bien d'autres travaux théoriques. Entre les crêpes stellaires flambées, les univers chiffonnés, vous avez proposé un bestiaire de concepts théoriques d'une grande richesse qui vous ont valu de nombreux honneurs. Et l'un de ces honneurs me plaît tout particulièrement, puisqu'en 1991, l'astéroïde 5523 a été baptisé Luminet en hommage à vos travaux. Jean-Pierre Luminet, vous êtes aussi, et peut-être d'abord chronologiquement, un artiste, musicien, poète, romancier, sculpteur. Tous ces moyens de creuser les mystères du réel et de l'invisible vont de pair avec vos travaux de recherche. Vous dites que votre vie de chercheur et d'écrivain est la quête d'une double mesure, celle du cosmos et celle des profondeurs de l'âme humaine. C'est ce voyage à travers l'espace-temps de votre personne et de vos travaux que nous allons parcourir tout au long de la semaine. Et avant de prendre la route du ciel, Jean-Pierre Luminet, j'aimerais que nous commencions cette série d'entretiens par le début et par votre enfance. J'aimerais savoir sous quelle étoile vous êtes né.
En tout cas, merci pour cette flatteuse présentation. Bon, vous l'entendez à mon accent provençal, je suis né dans le midi de la France, pied du Luberon, alors précisément la petite ville de Cavaillon. Je vivais à la campagne, donc j'ai passé une enfance relativement solitaire, même si j'avais un frère et une sœur, très contemplative. J'avais un jardin qui a joué un rôle très important pour moi, qui a développé une partie de mon intérêt naturaliste. Et donc paradoxalement, même après, si je suis devenu, pour mes recherches en astrophysique, un théoricien pur sans faire des observations, au contraire, quand j'étais gosse, j'observais la nature. Pas forcément le ciel, j'ai commencé par observer ce qui se passait dans mon jardin. Comment les araignées tissaient leurs toiles, comment une mante religieuse se combattait avec sa proie, tout un ensemble de choses, les colonies de fourmis. Alors je regardais évidemment également les étoiles, le ciel provençal. Mais déjà je me souviens, au-delà des petites épingles lumineuses que sont les étoiles, qui sont belles, je m'interrogeais déjà sur le noir qu'il y avait entre ces étoiles. Voilà. C'est-à-dire sur l'espace. Est-ce que c'est le vide? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que cet espace il a une véritable chair qu'un jour on pourrait éventuellement mettre en évidence, lui donner une consistance, lui donner une forme. Je ne me doutais évidemment absolument pas à l'époque que mes travaux d'astrophysicien ultérieur se porteraient précisément sur ce type de questionnement. Mais ce que je veux dire, c'est que je soupçonnais déjà que dans le noir, il y avait beaucoup de potentialités. Que finalement, la lumière n'était que le reflet, un reflet très partiel de ce que nous disait le cosmos et la nature en général. Et j'ignorais évidemment à cette époque les beaux aphorismes de d'Héraclite, par exemple, qui dit que la nature aime se cacher, que l'univers est beau, mais que voilà, tout cela est
l'harmonie de l'invisible
plus belle que l'harmonie du visible, et ainsi de suite. Voilà.
C'est dès cette enfance que vous avez développé aussi un goût, je crois, très développé pour le classement de la nature, déjà.
Oui, alors un goût multiforme pour beaucoup d'activités, mais déjà effectivement une tendance que j'ai un peu perdu par la suite d'ailleurs, hein, à vouloir un petit peu tout classer. Mais c'était simplement le reflet d'une curiosité fondamentale que j'avais pour énormément de domaines et de disciplines. Alors par exemple, comme je suis un grand amoureux des livres, ben, j'épluchais dès l'âge de 10-12 ans des grandes encyclopédies que nous avions à la maison et finalement j'en tirais une partie de leur substance en fonction de mes propres intérêts. J'avais un intérêt particulier, influencé d'ailleurs en grande partie par mon frère aîné qui était passionné de géographie. Il est d'ailleurs devenu ultérieurement un grand professeur d'histoire et de géographie. Donc un petit peu poussé par lui, je me suis intéressé à la géographie terrestre. Et je me souviens avoir donc classé avec lui avec passion, faire des listes des plus hautes montagnes, de toutes les chaînes de montagnes dont je connaissais les altitudes par cœur, la longueur des fleuves, les superficies des lacs, tout un ensemble de choses. Ça ne s'arrêtait d'ailleurs pas à la géographie, puisque je m'intéressais également après aux espèces animales. Je me souviens avoir classé les différentes espèces d'oiseaux, les palmipèdes, les échassiers, ce genre de choses. Bon, c'était pas très original, voilà, mais bon, voilà, c'est l'histoire finalement de classer les connaissances. C'était peut-être une petite partie aristotélicienne de mon activité, alors que finalement le fond qui se révélerait plus tard serait plutôt d'ordre platonicien. Alors, pour faire un lien déjà avec l'intérêt que j'avais aussi pour l'astronomie, entre autres, bon ben j'avais ouvert à 13-14 ans l'astronomie populaire de Camille Flammarion, son livre sur les étoiles, donc j'ai commencé également à classer les constellations. Mais je me souviens particulièrement d'un supplément, un gros dictionnaire datant de la fin du 19e siècle, l'encyclopédie Larousse, dans lequel il y avait des expéditions géographiques qui avaient exploré le grand territoire du Canada, et notamment qui avaient mesuré la superficie des lacs canadiens. Alors il y avait les grands lacs bien connus, hein, puis il y avait les petits lacs. Voilà. Et c'était une mine extraordinaire pour ajouter au classement des superficies des lacs, découvrir donc ces lacs canadiens, et j'ai regardé, j'épluchais avec frénésie tout ce supplément. Et puis j'étais quand même intrigué parce que quasiment à chaque page, il n'y avait pas forcément des lacs canadiens, mais il y avait un truc mystérieux qui s'appelait des planètes télescopiques. Je lisais un terme, en général le nom d'un dieu et d'une déesse grecque ou latine, planète télescopique numéro tant découverte en 1800 quelque chose par un tel, etc. Ça m'intriguait. Qu'est-ce que c'est les planètes télescopiques? Moi, les planètes, c'était les planètes connues du système solaire. Et c'est comme ça que j'ai eu ce contact avec ce qu'on appelle aujourd'hui les astéroïdes, puisqu'aujourd'hui, on les appelle les astéroïdes. La première planète télescopique, nommée ainsi parce qu'elle avait été découverte au télescope en 1801, gravitant entre les orbites de Mars et Jupiter. Elle s'appelait Cérès, on lui avait donné le numéro 1, et puis à mesure que les télescopes se sont développés tout au long du 19e siècle, on en a découvert des centaines. Et donc voilà, j'ai commencé aussi à classer les astéroïdes. Je ne me doutais pas d'ailleurs que bien plus tard, comme vous aviez la gentillesse de le signaler en préambule, qu'un astéroïde, mais découvert bien plus tard, en 1991 au Mont Palomar, finalement on lui donnerait mon nom pour rendre hommage à mes travaux. Une surprise tout à fait inattendue, évidemment, qui m'a fait extraordinairement plaisir, parce que finalement, ça a joué aussi un petit peu le rôle d'une Madeleine Proustienne qui m'a ramené à cette époque, voilà, de compilation de ces encyclopédies.
Est-ce que ce goût pour l'étude assidue, pour le classement, est-ce qu'il vient de vos parents qui ont repris, je crois, leurs études un peu sur le tard pour devenir enseignants?
Alors, le goût du classement, je ne pense pas, mais en tout cas, cette curiosité inlassable pour apprendre, c'est vrai, parce que mes parents... Mon père, surtout, avait été d'origine d'une famille très modeste. Il avait dû arrêter ses études à l'âge de 12 ans, dans la région de Saint-Étienne, pour subvenir aux besoins de sa famille, parce que son père était parti, et donc il restait seul avec sa mère et de nombreux frères et sœurs. Donc il était allé travailler à l'usine, et il était, pas analphabète, mais enfin, presque, voilà. Et c'est extraordinaire, c'est que, donc, après la guerre, quand il est venu dans le Sud, parce qu'il faisait du sport, c'était un grand sportif, il a rencontré ma mère, qui elle non plus n'était pas du tout une intellectuelle, qui avait arrêté ses études, comme c'était un petit peu normal à l'époque, à l'âge de 16 ans, et ainsi de suite. Et donc mon père, dans les premières années, il avait trouvé un travail dans le Collège Saint-Charles, à Cavaillon, un travail de moniteur d'éducation physique. Voilà. Et puis c'est au contact de ses collègues, professeurs de mathématiques, professeurs de français, etc., etc., qu'il a réalisé finalement qu'il avait tout à apprendre. Et il a fait ce travail tout à fait extraordinaire en travail personnel de faire donc toutes ces études par correspondance pour passer le diplôme qui lui permettait après d'enseigner réellement le français, l'histoire, la géographie, etc. Et c'est comme ça donc qu'il est devenu enseignant et instituteur dans ce collège Saint-Charles. Et j'ai encore un souvenir vraiment de petite enfance. Je devais avoir 5-6 ans à l'époque. Alors nous vivions dans des conditions au départ plutôt modestes. Ils avaient hérité de cabanon de campagne de mon grand-père maternel. Et puis progressivement, il avait agrandi et transformé. Mais pendant de nombreuses années, nous vivions seulement dans deux pièces. Une pièce qui servait de cuisine et puis une pièce plus grande qui servait de chambre pour tout le monde. Donc nous étions 5, avec mon frère et ma sœur et mes deux parents. Et je me souviens que le soir, mon père suivait ses cours du soir. Il avait acheté un petit microscope. Donc il allait chercher dans le jardin des petites choses pour les observer au microscope. Et je voyais tout ça. Voilà. Donc il a brillamment réussi et il est devenu un des meilleurs professeurs du collège de Saint-Charles. Et quelques années plus tard, donc finalement ça a forcément influencé, peut-être de façon souterraine, ma mère a fait pareil, c'est-à-dire une fois qu'elle nous avait considéré qu'elle nous avait élevés, c'est-à-dire j'avais 6 ans passés, etc., elle a fait la même chose, elle a suivi également ses cours, elle a passé également le même diplôme d'aptitude pédagogique et elle est allée enseigner la lecture au cours préparatoire du collège de Saint-Charles et pendant 30 ans. Elle a appris à lire à pratiquement toute la région.
Jean-Pierre Luminet, j'ai lu quelque part que vous disiez que votre vocation première, c'était pas l'astrophysique, c'était le rêve. Alors, à quoi rêvait l'enfant que vous étiez dans cet environnement?
Oui, c'est vrai, parce que j'ai dit donc que j'ai passé une enfance très contemplative et donc rêveuse. J'ai pas eu vraiment l'esprit pratique. J'ai eu, par exemple, envie de démonter un poste de radio pour voir comment ça fonctionnait, ce genre de choses. Alors même si je répète que j'observais la nature, je n'interagissais pas vraiment avec elle. Et je me posais plutôt des questions d'ordre abstrait sur l'organisation du monde, donc les classements dont également j'ai parlé. Mais surtout, une passion multiforme pour plein de choses. Moi, ce qui m'intéressait toujours, c'est la création, enfin créer quelque chose. Voilà. Et donc, toute forme de pensée humaine pouvant conduire à ça m'a très tôt touché. C'est pour ça qu'assez vite, j'ai pratiqué le dessin, la peinture, l'écriture, la poésie. Il y a des cahiers de poésie. Après, la poésie de façon plus sérieuse pour être publiée, c'est venu plus tard. Mais les petits cahiers de poésie, quand on a 10-12 ans, que j'ai retrouvé conservé d'ailleurs récemment.
Qu'est-ce qu'ils disent ces textes?
Et la musique, pardon?
Qu'est-ce qu'ils disent ces textes d'un enfant de 12 ans de poésie?
Ce sont des poésies un petit peu correspondant à cet âge un petit peu naïf. C'est de la poésie au départ qui est rimée. Rimé, rythmé. Elle parle de la nature, voilà, mais aussi un petit peu le début de, comme vous l'avez mentionné, ce qui me guidera par la suite dans une grande partie de mon travail, c'est la double profondeur donc du cosmos et de l'âme humaine dont parle Bachelard. Donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler sur mon rapport à la poésie qui permet effectivement d'explorer composantes sur lesquelles la science peut-être finalement n'a pas grand-chose à dire. Voilà. Et surtout la découverte un peu plus tardive de la musique qui elle est devenue sans doute ma plus grande passion avec la recherche scientifique.
Comment elle s'est faite cette découverte de la musique? Qui en a été le moteur?
Alors, la découverte de la musique, mes parents en fait écoutaient essentiellement la radio, et donc j'avais peu de rapport à la musique, à ceci près quand même, mais ça a joué après un rôle important ultérieurement dans ma pratique musicale, à ceci près que quand j'étais gosse, enfin au collège de Saint-Charles, comme mes parents faisaient ce qu'on appelle l'étude après la fin des cours, je n'allais pas rentrer à la maison tout seul. Et donc, j'allais à ce qu'on appelle l'école de musique qui servait d'une certaine façon de garderie. Voilà, entre 4h30 de l'après-midi et 6h du soir, on venait me rechercher. Et c'est comme ça que tout naturellement, dès l'âge de 6-7 ans, j'ai appris le solfège, l'harmonie, etc., etc. Voilà, ce qui après... sans écouter de la musique dite classique ou ce genre de choses. chose. Mais au moins, cette chose-là m'a servi après, beaucoup plus tard, parce que effectivement, j'ouvre une partition, je la lis presque comme un livre. Donc, c'est effectivement un avantage assez intéressant quand on prétend pratiquer la musique. Voilà. Donc après, ce n'est que vers l'âge de 12-13 ans, je crois, que j'ai eu, on m'a offert mon premier électrophone. Et au départ, c'était aussi mon frère et ma sœur aînée, parce que j'étais le dernier de la fratrie, le dernier des trois, voilà, qui choisissait plutôt ce qu'il fallait écouter. Et donc, au début, moi, je suivais ça. Donc, à l'époque, qu'est-ce qu'on écoutait? Moi, je me souviens, mon frère, il était passionné d'un groupe anglais qu'on appelait les Shadows. Donc, tout ça, c'était avant les Beatles, c'était avant les Rolling Stones, etc. Donc, j'écoutais les Shadows, etc. Puis, j'écoutais aussi les variétés de l'époque. Hein. Je me souviens, Sheila, Richard Anthony, Johnny Hallyday, ce genre de choses. Voilà. Pour moi, c'était ça, la musique. Voilà. Et un jour, je devais avoir peut-être 12-13 ans. L'instituteur de je devais être en CM, CM2, ce qu'on appelle CM2, enfin quelque chose comme ça. Voilà. Mon instituteur m'a dit, à la fin de la classe, il m'a dit, tiens Jean-Pierre, je sais que tu as un électrophone, je ne sais pas ce que tu écoutes, mais je vais te prêter quelques disques. Et je suis sûr que te connaissant un petit peu, que ça te touchera. Et il me donne des disques, des vinyles à l'époque, bien entendu. Voilà. Alors c'était la petite musique de nuit de Mozart, la cinquième de Beethoven, la deuxième oration d'Ambroise de Liszt, c'est-à-dire les grands. Je mets ça sur mon électrophone et je suis absolument stupéfait. C'est un univers totalement nouveau et bouleversant se révélait à moi d'un coup. Donc c'est de là qu'est née ma passion pour la musique, essentiellement la musique classique d'ailleurs, même si plus tard après je me suis mis d'assez près au jazz. J'avoue que je reste relativement hermétique aux autres formes de musique plus populaires, disons. Hein. Et quand je dis musique classique, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, ça inclut évidemment la musique de création contemporaine, qui n'est, pour beaucoup, c'est plus de la musique classique, hein, voilà. Et puisque donc, plus tard, j'aurai des collaborations très très étroites dans les créations de musique contemporaine. Donc ça, ça a été mon rapport inaugural avec la musique. Et puis la deuxième épisode, peut-être encore moins aussi important, sinon davantage, c'est ma découverte du piano. Nous n'avions pas de piano, mais j'avais un parrain qui jouait de l'accordéon et dont le fils aîné jouait, lui, de piano. Et un jour, il décide de changer de piano. Il achète un plus beau piano à son fils. Et il me dit, est-ce que ça t'intéresserait d'avoir notre piano? J'ai dit oui, voilà. Et donc c'est comme ça que le piano est arrivé à la maison. Et là, à nouveau, deuxième bouleversement total, arriver à sortir des sons simplement en appuyant les doigts sur des notes blanches et noires. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et donc, rapidement, j'ai dit à ma mère que je voulais apprendre à jouer du piano. Et j'ai commencé à prendre, effectivement, des cours de piano, des leçons de piano. Alors, malheureusement tard, parce que j'avais déjà 15 ans à cette époque. Voilà, j'ai aucun regret dans ma vie, mais si je devais en avoir un, c'est celui-là. Parce que, je veux dire, je vivais toujours à Cavaillon, il n'y a pas de conservatoire. Il fallait aller à Avignon, c'était un peu trop compliqué. Donc j'ai eu un enseignement qui est essentiellement un autodidacte. Je me suis mis également à composer assez rapidement des petites piécettes, évidemment, au début, très influencé par les choses que je connaissais, hein, du simili Mozart, du simili Beethoven, ce genre de choses. Voilà. Donc déjà, à nouveau, cet aspect créatif, voilà. Et donc, je répète, donc, écriture de mes premiers poèmes, des premières nouvelles. Après, les tout premiers romans sont venus un petit peu plus tard. Beaucoup de dessins, également. La peinture, j'ai exploré la gouache, la peinture à l'huile, ce genre de choses. Bon, j'ai un peu perdu les choses de cette époque, hein, à part mon cahier de poésie. Mais voilà, c'est ça, cet engagement que j'ai toujours eu, finalement, depuis vraiment ma tendre adolescence pour une activité créatrice.
Jean-Pierre Luminet, quand vous parlez de votre enfance mélomane, vous avez parlé de cet instituteur qui vous propose d'écouter des disques de musique classique. Et une autre figure, un peu plus tard à l'adolescence, qui est très importante pour votre formation musicale, entre guillemets, c'est Arthur Petronio. Alors, qui est cette personne et comment il vous a influencé?
Oui, je vous remercie de mentionner des personnes malheureusement oubliées, mais absolument, absolument remarquables. Donc, en fait, dans mon apprentissage premier du piano, pendant 2-3 ans, donc je suivais des cours à Cavaillon auprès d'un petit professeur de musique cavaillonnais, qui, je dois dire, on n'avait pas beaucoup de d'imagination, un petit peu la caricature, vous voulez, le professeur de piano d'une vieille fille, qui ne jurait que par Mozart et Beethoven, etc. Donc, j'avais pas très envie de continuer, voilà, parce qu'en plus sur l'heure de piano, elle me faisait faire 3/4 de solfège. Je lui dis, mais enfin, je le connais très bien déjà. Moi, ce que je veux, c'est jouer du piano. Ah, mais non, comme ça, voilà. Si bien que au bout de 2-3 ans, je me souviens, j'ai dit, bon, je devais avoir 17 ans. J'ai dit à ma mère, écoute, moi, j'ai peut-être envie de continuer. Elle m'a dit, non, écoute, tu le regretteras plus tard si tu arrêtes. Parce que, bon, ma mère est très, même s'il n'avait pas eu, elle n'a eu aucune éducation musicale, elle était très fière que moi, je sois passionné par cela. Tu risques de le regretter plus tard. Alors, j'ai dit, bon, d'accord, mais alors, je pose mes conditions. Alors, voilà. Donc, lors du prochain rendez-vous, donc, je dis à mon professeur de musique, je reprends cette année, mais alors, à condition que d'abord, je fasse vraiment plus qu'une heure de piano, on fait plus de solfège, plus de ça, voilà, et puis que je choisisse mes morceaux. Bon, on l'a rouspété un peu, mais donc oui, enfin, bon, regardez qu'on élève, d'accord, etc. Voilà. Alors qu'est-ce que tu veux jouer? Alors, bon, j'avais vu un petit bribe de partition d'un nocturne de Chopin qui dépassait un petit peu, effectivement, ce que je pouvais faire à l'époque, mais je voulais progresser. Elle était un petit peu horrifiée, mais c'est trop dur pour toi, etc. Je dis, mais bon, enfin, au moins que l'on essaie. Et quelques temps après, je lui ai apporté mes premières compositions musicales, qui évidemment étaient vraiment un petit peu enfantine, etc., etc. Et donc j'ai à peine commencé à jouer quelques mesures. Elle me dit, arrête-toi, de toute façon c'est pas la peine, après Mozart et Beethoven, voilà, ça ne sert plus à rien de composer. Donc voilà, donc j'ai fini par laisser tomber. Et un jour, ma mère, donc j'avais 17 ans, ma mère, en s'en renseignant un petit peu, elle me dit, tiens, j'ai appris que dans la région, il y a un grand violoniste et un ancien directeur du conservatoire de Reims qui s'appelle Monsieur Petronio, j'ai entendu dire c'était quelqu'un de remarquable. Il faisait pas que de la musique, de la poésie, de la littérature, de la peinture, etc. Voilà, c'est quelqu'un qui pourrait correspondre, voilà. Et c'est comme ça qu'effectivement j'ai fait cette découverte extraordinaire. Je suis allé voir ce Monsieur Petronio qui à l'époque était déjà assez âgé, il avait déjà plus de 60 ans, voilà, et il m'a pris sous son aile. Parce que il a vraiment vu que j'avais un cœur, une âme très très sensible, et surtout ce désir de création. Et finalement, je n'ai pris qu'une année de cours, c'est-à-dire l'année où finalement de mon bac, puisqu'après je suis parti ailleurs. Alors, voilà. Et c'est cette année qui a été la plus riche finalement dans ma formation musicale. On faisait même à peine du piano. On parlait de musique, harmonie, contrepoint. Lorsque je lui ai apporté mes premières esquisses musicales, un petit peu plus avancées quand même que ce que j'avais apporté quelques années auparavant, c'était plus l'influence des sonatines de Beethoven, ça commençait à être plutôt Bartok, ce genre de choses. Ben, il m'a encouragé, au lieu de me décourager, il m'a dit, tiens, je vais te donner quelques cours supplémentaires de contrepoint et d'harmonie. Voilà. Et les leçons, au lieu de durer une heure, elles duraient tout à l'après-midi, et c'était formidable. Hein, voilà.
Jean-Pierre Luminet, dans tout ce que vous nous dites, à quel moment, finalement, dans cette enfance-là, le ciel s'invite sur la table? Quand est-ce que vous commencez à vous intéresser? Parce que là, on a l'impression de rencontrer un compositeur, un écrivain. Vous êtes tout ça à la fois. Ouais. Mais quand est-ce que le ciel arrive?
Ah oui, alors un épisode aussi important qui date toujours aussi de cette époque, où j'avais 15-16 ans. Je lis quelque part d'un petit bouquin, un petit magazine probablement, des petites instructions pour monter une lunette astronomique amateur très très simple, pour la monter soi-même. Alors je me suis dit, tiens, faisons-le. Voilà. Donc je suis allé chez le tapissier de Cavaillon pour acheter deux tubes en carton coulissant l'un dans l'autre pour changer la longueur focale. J'ai acheté par correspondance l'oculaire et la lentille et j'ai monté le tout. Voilà, pour en faire un équivalent de longue vue, une petite lunette astronomique. Alors j'ai commencé à regarder comme ça, évidemment ça tremblait beaucoup, donc je ne voyais rien. Donc j'ai dit, je vais construire un pied. Et comme j'aimais beaucoup le mécano à cette époque-là, j'ai commencé à fabriquer un pied avec des pièces de mécano. Évidemment ça tremblotait complètement, j'ai jamais réussi à rien observer de concret et de correct, et donc j'ai rapidement laissé tomber. Donc c'est vrai que je commençais à m'intéresser de plus en plus aux choses de l'astronomie, grâce, je le répète, essentiellement à la lecture également de l'astronomie populaire de Camille Flammarion. Je me souviens que j'avais écrit une lettre, enfin j'avais été toujours encouragé par ma mère qui suivait vraiment de très près mon évolution. Elle m'a dit, t'as qu'à écrire au directeur de l'observatoire de Fort-Calquier, aujourd'hui ça s'appelle l'observatoire de Haute-Provence, qui s'appelait Charles Ferenbach, ça a été, voilà. grand personnage de l'astronomie française. Donc voilà, je devais avoir 12-13 ans, je lui ai écrit une lettre en lui demandant qu'est-ce qu'il fallait faire pour devenir un jour astronome. Bon, il m'a jamais répondu, il devait recevoir des tas, tout comme aujourd'hui, j'en reçois des centaines et des milliers, et je ne réponds qu'à une toute petite fraction d'entre elles, parce qu'on ne peut pas répondre voilà, à toutes ces sollicitations. Après, dans des rapports toujours de plus en plus rapprochés, pas directement avec l'astronomie, mais c'est passé finalement par les mathématiques. Puisque finalement, mon cursus scolaire, c'est vrai que là, pour l'instant, j'ai parlé de musique, de peinture, mais alors les études, qu'est-ce que j'ai fait comme études? J'ai fait des études de mathématiques. Simplement, j'avais des facilités mathématiques, il faut bien le reconnaître. Pour moi, c'était facile et tout ça. Et en plus, ça correspondait tout à fait à ma forme d'esprit très abstraite. C'est beau, c'est élégant, manipuler des équations. Voilà. Et donc, on a la chance, quand on est, bon en maths, entre guillemets, d'avoir beaucoup de temps pour faire le reste, parce qu'on résout très rapidement les choses. Voilà. Donc, c'est ce qui me permettait précisément de m'adonner à toutes mes autres passions. Mais donc, voilà, j'ai fait des études de mathématiques jusqu'au bac, évidemment, le bac scientifique. Et après le bac, ma mère rêvait, mes parents, pour eux, un peu le symbole de la réussite sociale, c'était de devenir un ingénieur, un grand ingénieur dans une grande école. Voilà. Alors, comme j'avais des notes sensationnelles, tout ça, elle dit, tu vas faire les classes préparatoires, tu vas aller à Marseille, au lycée Thiers, tu vas préparer Polytechnique, et ce genre de choses, et tu deviendras. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, Mathsup, Maths Spé. Alors, pareil, ça marchait très très bien, j'étais très, très bon en maths, etc. Mais c'est là que ça a commencé quand même à bloquer. Parce que autour de moi, je voyais ce bachotage, cette forme d'esprit clivé aussi, le clivage. Il fallait faire des maths. Ça allait très bien, les maths. Il fallait faire de la physique, un peu moins. Parce qu'à cette époque, je n'aimais pas la physique. J'ai compris que c'était uniquement parce qu'elle était incroyablement mal enseignée. Et donc, je commençais à me sentir mal à l'aise. Et même donc, si tout allait bien sur le plan des notes et tout ça, donc je me souviens, les professeurs de l'époque, ils rêvaient, major de polytechnique, ce genre de choses, etc., etc. Je faisais ça pour faire plaisir, pour pas décevoir mes parents, voilà. Et puis, il y a un moment où j'ai fini par craquer, voilà. Alors, il y a une petite anecdote, mais c'est une anecdote, mais finalement, ça joue quelque part, peut-être de façon profonde, de façon inconsciente. Je me souviens, on était dans le soir, les élèves se retrouvent à l'étude pour faire les devoirs de maths, exercices pour le lendemain, etc., etc. Et moi, déjà à l'époque, je commençais à écrire des petites nouvelles de science-fiction, etc. Et je me souviens, là précisément, je lisais Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Et un de mes camarades s'est approché de moi, il me dit « Qu'est-ce que tu lis ?» Je lui montre, regarde, Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Il me dit « Mais à quoi ça sert? Tu perds ton temps. » Alors là, ça a été le couperet radical. Je lui dis « Mais je peux pas aller dans ce milieu-là. » Voilà. Et j'ai bâclé mes concours. J'ai tout échoué.
Merci beaucoup Jean-Pierre Luminet. On parlera demain de la suite que vous avez donnée à cet échec, à ce bâclage. Merci beaucoup en tout cas et à demain.
Bonsoir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Antoine Beauchamp avec Jean-Pierre Luminet. À voix nue, réalisation Assia Khalid, prise de son Christophe Papon, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécouter ce podcast sur franceculture.fr.